Les tombes leur prirent toute la nuit. Il y en avait 7 en tout, chacune d'1,50 m à 1,80 m de profondeur, creusées par une dizaine de paires de mains. Certains des fossoyeurs apportèrent des gants et les prêtèrent à tour de rôle à ceux qui n'en avaient pas pour éviter qu'ils ne s'esquintent la peau. À la fin, toutes les mains étaient pareillement brûlantes et couvertes d'ampoules. Leurs doigts peinaient à se délier. Leur dos ployait tel des feuilles de laurier. C'était le milieu de l'été, mais sur la montagne, l'air était frais. Chaque fois qu'ils s'extirpaient des tombes pour se reposer, la sueur glaçait leur corps et ils goûtaient cette sensation car le labeur les avait comme embrasés. Les sauterelles s'égosillaient dans les arbres et c'était ce bruit qui étouffait la morsure et le cliquetis des lames creusant la terre, la respiration laborieuse de ceux qui enfonçaient leur pelle toujours plus profondément. Vers minuit, la police du campus fit le tour du parking au cours de sa patrouille, mais les fossoyeurs se cachèrent et se retrouvèrent bientôt seuls. La terre s'accumulait à la tête des tombes et quand ils eurent fini de creuser, ils firent la navette depuis les pick-up pour transporter des seaux de pierre de rivière. La jeune femme qui avait tout organisé acheva seule le travail. Elle avait peint en blanc les pierres de rivière et avec celle-ci, elle façonna lentement des lettres sur les monticules d'argile à la tête de chaque tombe. Elle prit son temps, comme s'il s'agissait d'une sorte de méditation. Tenant chaque pierre à deux mains, elle les tourna lentement jusqu'à ce qu'elles semblent trouver leur place d'elles-mêmes et, quand la dernière fut posée, un mot avait pris forme. Même à la lumière bleutée, elle pouvait lire ce qui était écrit et, sa tâche accomplie, elle s'allongea sur l'herbe pour regarder la dernière des étoiles à peine visibles pâlir et disparaître, tandis que la lueur de l'aube blanchissait le ciel. Au début, elle avait envisagé de tendre des draps noirs sur le sol pour signaler les tombes béantes. Mais maintenant que le travail était achevé et que son corps la faisait souffrir, elle était contente d'avoir opté pour le plus difficile. C'était une composante de l'histoire dont elle connaissait désormais parfaitement les détails. Elle bascula vers l'avant et enroula les bras autour de ses genoux. De la boue rouge formait une croûte sur les jambes de sa salopette. Elle sentait l'argile sécher tel un masque au charbon sur son visage dont elle avait essuyé la sueur du dos de la main. Elle sourit et ferma lentement les yeux, satisfaite de ce qu'ils avaient accompli. Quand les premiers oiseaux se mirent à chanter, les gens qui l'avaient aidée commencèrent à partir. Contrairement à elle, tous étaient blancs et certains lui serrèrent la main tandis que d'autres la prirent dans leurs bras. Un jeune homme du nom de Brad Roberts fut le dernier à s'en aller. Il était étudiant en 3e cycle à l'université et lui avait apporté tout l'été une aide considérable dans ce qu'elle avait entrepris. Au cours des 2 derniers mois, ils avaient passé beaucoup de temps ensemble, presque tous les jours. Il s'approcha et se campa devant elle. « C'est fort, » dit-il, posant doucement la main sur l'arrière de son bras. « Vraiment, Toya. » Ces paroles la remplirent de fierté. Quand il fut parti et qu'elle se retrouva seule, elle sortit un papier plié de sa poche arrière. Elle l'ouvrit, dévoilant une photographie en noir et blanc qu'elle avait imprimée à la bibliothèque. Sur le cliché, 19 hommes et femmes étaient rassemblés devant une église. La plupart des hommes arboraient une moustache et toutes les femmes portaient un chapeau. Tous étaient vêtus de leurs habits du dimanche. Son arrière-arrière-arrière-grand-père se tenait au 2e rang, une main dans la poche, ce qu'elle pouvait affirmer à la façon dont sa veste saillait au-dessus de la taille de son pantalon. Il était grand et mince, avec des sourcils bas qui ombrageaient son regard. La peau claire comparée à son épouse, qui se tenait à ses côtés. Son arrière-arrière-arrière-grand-mère portait un châle tricoté blanc drapé sur les épaules, une capeline noire posée fièrement sur la tête. Sur son visage, la jeune femme retrouvait les traits de sa propre mère, des traits qui avaient été transmis et se perpétuaient. À Marie, dont l'esprit brûle d'un éclat aussi farouche que quiconque a vu le jour en ce lieu. Prenons un couteau et coupons le monde en deux, et voyons ce que les vers mangent de l'écorce. Langston Hughes. Première partie.